Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après des émeutes urbaines samedi à Paris notamment, l'exécutif lance aujourd'hui une grande consultation politique avec le Premier ministre Édouard Philippe, envoyé en première ligne par le chef de l'État. Il doit recevoir des représentants des Gilets jaunes et les chefs des partis politiques à Matignon. Comment sortir de la crise et quelles réponses judiciaires apporter aussi aux 378 gardes à vue à Paris. Reportage et analyse dès le début de ce journal.
Et puis le sommet du G20 en Argentine n'aura pas été celui de l'escalade des tensions commerciale, Pékin et Washington ont signé une trêve dans leur guerre au relèvement des tarifs douaniers, mais le communiqué final est l'un des plus faibles jamais signés.
À chaque pays, par exemple, de choisir sa trajectoire énergétique. Inacceptable pour les pays du Sud, vulnérables au changement climatique. Ils le rappelleront aux pays du Nord à partir d'aujourd'hui à la COP24 en Pologne.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, donner une fessée, est-ce être un mauvais parent? On posera la question à la professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Catherine Jousselme.
Il était venu saluer les forces de l'ordre avenue Kléber à Paris et constater les dégâts à l'Arc de Triomphe au lendemain de scènes de guérilla urbaine. Emmanuel Macron a également été confronté hier à des gilets jaunes scandant Macron démission. Le chef de l'État mis en cause par les 136 000 manifestants de samedi. Le chef de l'État qui a demandé à son Premier ministre Édouard Philippe de recevoir des représentants des gilets jaunes et les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Avant de s'interroger sur la sortie de crise politique, arrêtons-nous sur les réponses judiciaires aux affrontements de samedi. 133 blessés à Paris, 249 feux recensés par les pompiers, l'Arc de Triomphe saccagé. C'est un niveau de violence jamais atteint depuis des décennies à Paris, a estimé hier soir le préfet de police Michel Delpuech. 378 personnes ont été placées en garde à vue, dont une trentaine de mineurs. Les comparutions immédiates commenceront cet après-midi, mais dès hier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est venue voir les magistrats du parquet constituer leur dossier, Corinne Audouin.
On l'appelle P12, c'est la section du parquet de Paris chargée du traitement des infractions en temps réel. Habituellement, il y a 5 magistrats de permanence. Ce dimanche, ils sont 15 pour gérer 378 gardes à vue du jamais vu, avec des individus souvent très déterminés, comme l'explique à la ministre de la Justice, Alexandra Onfray, premier vice-procureur.
Par exemple, c'est un individu qui a commis des violences sur les forces de l'ordre et qui était par ailleurs, comme un certain nombre de gilets jaunes qui sont différés aujourd'hui, équipé de matériel de protection, que ce soit des casques, que ce soit des masques, que ce soit des pots de peinture. On a énormément de pots de peinture de 5 litres qui sont à la fois du matériel qui peut servir à la dégradation mais aussi de projectiles face aux forces de l'ordre. Donc vraiment des individus qui se sont équipés pour faire face à un assaut des forces de l'ordre et y résister par la force.
Comme cet homme, beaucoup sont venus de province pour manifester et pour en découdre.
Et alors donc ce monsieur-là, vous allez en faire quoi là?
Alors donc là on est en train de qualifier le dossier, je vais le recevoir dans quelques instants ensuite pour lui indiquer que nous demandons son placement en détention provisoire en vue comparution immédiate lundi.
Parfois, un simple rappel à la loi suffit. La procureure évoque des pères de famille venus équipés et finalement dépassés, choqués par les violences qu'ils ont vues. Il y a de tout, expliquent les magistrats, des militants aguerris et de jeunes délinquants venus piller les magasins. Pour juger ceux qui passeront devant le tribunal, 5 chambres vont siéger en même temps ce lundi.
Voilà pour le volet judiciaire. Quelle réponse politique apporter à présent à la crise des gilets jaunes? Emmanuel Macron, je le disais, a demandé à son Premier ministre de recevoir des représentants de la contestation ainsi que les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, dont Marine Le Pen et peut-être Jean-Luc Mélenchon qui demande des élections anticipées. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Comment l'exécutif peut-il donc sortir de cette crise?
Eh bien, tout va dépendre évidemment de ce qui ressort des entretiens organisés à partir de ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Pas moins de 32 personnalités politiques vont être reçues à Matignon dès 8h30 ce matin. C'est la maire de Paris qui viendra s'exprimer. Anne Hidalgo, toujours en colère de ne pas avoir été associée au dispositif de sécurisation de sa ville ces 2 derniers jours. Puis ce sera au tour des présidents des groupes parlementaires des assemblées et aux chefs des partis, notamment ceux des oppositions, même si le député insoumis Alexis Corbière laisse planer le doute à l'instant sur la venue de Jean-Luc Mélenchon. Pour le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, qui a évoqué un gouvernement figé dans son attitude hier, la réponse, elle doit être politique, mais surtout immédiate. Même le référendum sur le plan de transition écologique demandé par le chef de son parti, Laurent Wauquiez, n'est pas la solution. En tout cas, pas tout de suite, estime Gérard Larcher. Et c'est vrai qu'on imagine mal comment le gouvernement pourrait se passer à minima d'un moratoire sur l'augmentation des taxes sur le carburant. Réponse politique rapide donc. Et si possible, amorce d'un dialogue avec les Gilets jaunes. Un site internet officiel des Gilets jaunes a vu le jour hier soir, La France en colère, du nom de la page Facebook. Et puis, il y a eu cet appel de certains Gilets jaunes, les Gilets jaunes libres, hier, dans le journal du dimanche, dit porte-parole pour construire sur cette colère exprimée depuis plus de 15 jours. Une colère soutenue par les Français à 80% la semaine dernière. C'est l'énigme en ce début de semaine, celle de l'état de l'opinion après ce week-end de cauchemardesque, comme l'explique le politologue Jérôme Sainte-Marie.
Il n'est pas exclu qu'il y ait un reflux compte tenu de l'intensité de la violence dans les rues de Paris samedi, mais il est possible aussi qu'une bonne partie de l'opinion tolère cette violence tant sa colère sociale et sa colère politique sont grandes.
Voilà le politologue Jérôme Sainte-Marie, colère qui est directement adressée au président Macron, qui pour l'instant se protège avec son Premier ministre, comme la Ve République le lui permet, mais qui devra aussi sortir de sa réserve pour dire comment il compte sortir de cet engrenage violent et surtout comment il compte rattraper ces décrocheurs de la démocratie dont les rangs semblent bien gonflés ce week-end.
Anne Fauquemberg, et aux demandes des Gilets jaunes et de l'opposition s'ajoutent quelques voix dans la majorité. Certains députés LREM appellent à un moratoire sur la hausse de la taxe carbone. D'autres demandent une réflexion sur l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune.
7h06 sur France Culture, la suite des magasins avec le journal de Catherine Dutu. Les médias chinois saluent ce matin l'importante trêve commerciale signée au G20 entre Pékin et Washington.
Notre correspondante en Chine l'évoquait dès vendredi. C'est désormais chose faite. En conclusion du G20 en Argentine, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle allait repousser de 90 jours une hausse des tarifs douaniers sur les importations chinoises. Parallèlement, la Chine s'engage à augmenter les importations américaines, une nouvelle saluée encore par les bourses asiatiques ce matin. Et contrairement aux pronostics pessimistes, le texte final du G20 hier a réussi l'exploit de tracer un chemin commun aux 20 premières économies mondiales, mais à minima, en laissant à chaque pays le soin d'avancer à son rythme. Un sommet mais déminé sur le plan économique et diplomatique, le décryptage de Marie Viennot, notre envoyée spéciale à Buenos Aires.
De ce G20, on retiendra d'abord les très nombreuses tensions diplomatiques qui l'ont précédé. Pour sa première rencontre internationale depuis l'affaire Khashoggi, le prince saoudien Mohamed Ben Salman risquait d'être isolé. Même chose pour Vladimir Poutine, quelques jours après de nouvelles tensions avec l'Ukraine. Sans complexe, les deux hommes ont affiché dès le début du sommet une joie complice et prolongé leur entente pour limiter la production de pétrole à l'encontre des intérêts des autres membres du G20 assis à la même table. Lors de sa conférence de presse finale, le président russe a même martelé que la guerre en Ukraine continuerait tant que les autorités ukrainiennes resteraient au pouvoir. Difficile de faire plus droit dans ses bottes. Sur le front commercial, en revanche, une trêve a été déclarée lors d'un dîner privé entre la Chine et les États-Unis à l'issue du sommet. Trêve de 90 jours pendant lesquels les taxes aux importations chinoises restent, mais n'augmentent pas le temps que les deux pays s'accordent sur des changements dits structurels. Ce G20 de Buenos Aires n'aura donc pas été celui de l'escalade des tensions commerciales, mais son communiqué final est l'un des plus faibles jamais signés. Sans nommer leur désaccord, les membres du G20 se sont donné un an pour avancer sur une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Sur le climat, la coalition à 19 qui soutient les accords de Paris a été maintenue, mais comme elle est de plus en plus fragile, le texte du G20 reconnaît à chaque pays le droit de sa stratégie énergétique pour un futur basse émission. Autrement dit, à chacun son chemin, comme s'il n'y avait pas d'urgence. L'urgence à ce G20 de Buenos Aires, c'était surtout de sauver les apparences.
L'urgence climatique, c'est pourtant ce que vont rappeler aujourd'hui les pays les plus menacés par les catastrophes naturelles. Les présidents d'États particulièrement vulnérables comme le Honduras et le Bangladesh sont attendus à la COP24 en Pologne. Bonjour Véronique Reberotte.
Bonjour.
Les pays du Sud vont une fois de plus rappeler aux pays du Nord leur promesse de porter d'ici à 2020 à 100 milliards de dollars par an les financements aux politiques climatiques des pays en développement.
Oui, chaque année, à chaque COP, cette question des financements Nord-Sud vient crisper les discussions des négociations sur le climat. Les pays les plus riches se sont engagés à aider les plus pauvres, premières victimes du réchauffement, les aider à s'adapter à ces hausses de température destructrices pour leur environnement, tout en les aidant à réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Alors, les besoins sont immenses et les pays riches, en retard sur leurs promesses, il ne leur reste que 2 ans pour tenir l'engagement des 100 milliards de dollars mobilisés chaque année à compter donc de 2020. L'ONG Oxfam a fait les comptes, le montant déclaré par les bailleurs s'élève pour pour l'instant à 48 milliards de dollars par an, même pas la moitié, et pas vraiment de volonté affichée de la part des pays riches de faire mieux, en annonçant vouloir doubler son aide, vouloir mobiliser 200 milliards de dollars de 2021 à 2025. La Banque mondiale espère aujourd'hui, elle l'a annoncé, avoir un effet d'entraînement et tente de rassurer. De la même façon, le secteur banquier, tel que l'espérait, l'accord de Paris, rechigne toujours à intégrer le climat dans leur stratégie. Seulement 0,5% des portefeuilles des investisseurs internationaux contribuent à la transition vers une économie bas carbone. Pire, les banques françaises, pour ne parler que de celles-ci, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, ces banques ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards de dollars en 2016 et 2017 contre 12 milliards de dollars seulement aux énergies renouvelables.
Véronique Rebérotte, la COP24, c'est un onglet et un dossier complet à retrouver sur notre site franceculture.fr. C'est une première en Espagne. L'extrême droite fait son entrée dans un parlement régional. En remportant hier 12 sièges aux élections en Andalousie, le parti Vox a mis fin à la domination de la gauche dans la région la plus peuplée du pays. Une gifle pour le premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Le Levothyrox, médicament de l'allemand Merck prescrit contre l'hypothyroïdie, se retrouve au cœur d'un procès hors norme aujourd'hui à Lyon, intenté au civil par 4113 plaignants. Des plaignants qui accusent le groupe allemand d'un défaut d'information sur une nouvelle formule ayant causé, selon eux, de nombreux effets indésirables allant de fatigue à des maux de tête en passant par des insomnies et des vertiges. À suivre dans le journal de 7h30, 50 rebelles houthis blessés au Yémen doivent être évacués aujourd'hui vers Oman à bord d'un avion affrété par l'ONU, une marque de confiance préalable à des pourparlers de paix qui doivent se tenir en Suède. Le temps de ce lundi 3 décembre, il restera doux, nuageux et souvent pluvieux de l'Atlantique jusqu'aux frontières de l'Est. Davantage d'éclaircies de l'Est des Pyrénées à la Méditerranée. Les températures sont comprises ce matin entre 8 et 14 degrés du nord au sud. Cet après-midi, comptez de 12 à 16 degrés en général, jusqu'à entre 17 même et 21 du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée. Guillaume Erner.